Voici les titres du journal.
7 conseillers d'État et leur élection à la proportionnelle. La constituante a adopté ce matin ses modifications en première lecture de la commission sur ses autorités cantonales. Les détails dans quelques instants avec Valérie Blom. En prévision d'une éventuelle fusion avec Saint-Maurice ou Montet, les communes de Vérossa et Massonger ont organisé des ateliers citoyens. Ateliers destinés à prendre connaissance des envies et des craintes de la population. Le conseil communal de la Tour de Paix s'est réuni hier soir et comme pour les autres communes, les finances étaient au menu de cette avant-dernière séance, un budget négatif sur lequel le Covid a laissé des traces. L'école hôtelière de Lausanne et le CHUV se sont associés pour lancer une nouvelle formation. Objectif améliorer au sein de l'établissement hospitalier vaudois la qualité de l'accueil des patients. On vous en parle dans un instant. En basket, Blenay n'a pas réussi d'exploit hier soir face à Genève Elite en Coupe de Suisse. Et ce week-end, Puydou sera la capitale vaudoise de la gymnastique avec la tenue du Gala Gymvo 2021.
Le temps sera changeant cet après-midi et pour demain, c'est un temps seulement en partie ensoleillé qui nous est annoncé par Météo Suisse. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Au programme de la Constituante ce matin, le Conseil d'État et l'administration. Principal enjeu, le nombre de sièges au Conseil d'État après celui du Grand Conseil mardi ainsi que son mode d'élection. Et vous y étiez, Valérie Blom?
Oui, en effet, Léa, passé de 5 à 7 conseillers d'État, l'idée circule depuis un moment déjà. Ce matin, en première lecture, l'Assemblée a décidé d'augmenter le nombre du membre de l'exécutif de 5 à 7. Devant l'ampleur de la tâche de certains départements, certains partis comme Appel Citoyen, les valeurs libérales radicales, les Verts ou le parti chrétien social du Haut-Valais ont soutenu cette proposition, également afin de garantir une meilleure représentativité des genres et des régions.
Et cela peut surprendre, mais les groupes haut-valaisans se sont opposés à cette modification.
Oui, notamment le Parti Socialiste Haut-Valaisan estimait que la meilleure solution pour la représentation des régions serait d'introduire l'élection du Conseil d'État à la proportionnelle et pas d'augmenter le nombre de ses membres. L'UDC Haut-Valaisan a souligné que le statu quo prévaut puisqu'il fonctionne très bien. Toutes les régions sont représentées. Au final, 81 votants ont suivi la commission contre 3 non.
Et enjeu suivant, l'élection de ses conseillers entre majoritaire ou proportionnel.
En effet, la représentation des régions a pris toute son importance. Pour rappel, une élection a lieu selon le système proportionnel lorsque les sièges sont répartis entre plusieurs partis. À partir du moment où ils atteignent un quorum, ce qui favorise la diversité de représentation. Lors d'élections majoritaires, les candidats sont élus directement. C'est alors la personne qui compte le plus de voix qui l'emporte.
Et selon les membres du plénum, la proportionnelle protégerait davantage la représentation des régions.
Oui, mais pour protéger cette représentation, le texte proposé par la Commission garantissait un siège au Haut-Valais, un au centre et un au bas. Nombreux proposaient d'augmenter ce chiffre à 2 ou une option 2-1-1, 2 pour Brigue-Viège, 1 pour Sierre et Sion et 1 pour Martigny et Montet. Romano Amaker de l'UDC du Haut-Valais a même soutenu qu'une constitution avec un seul siège garanti pour le Haut pourrait être refusée puisqu'elle offrirait trop peu d'influence à la région.
Mais alors pourquoi autant d'attention sur le Haut et pas sur le bas?
Alors selon le Montaisan d'Appel Citoyen Johan Rochelle, la véritable différence résiderait dans la langue, ce qui expliquerait que le Chablais n'est pas comparable au Haut-Valais et que dans une perspective à 2050 où la démographie aura encore appuyé cette minorité, il faudra disposer de moyens pour la protéger. Le président de la commission, François Genoux, a défendu l'option majoritaire mais n'est pas parvenu à convaincre le plénum. La formule 1-1-1 pour un représentant garanti par région a par contre été acceptée par l'Assemblée.
Merci Valérie. Les débats se poursuivent encore cet après-midi, à savoir qu'il s'agit de la première lecture. Il y en aura une deuxième avant la validation finale par les Valaisans.
Après Vérossa mardi soir, Massonger organisait hier un atelier citoyen.
Cette soirée avait pour objectif de recevoir un retour de la part des habitants au sujet d'une éventuelle fusion avec un de ses voisins de Montet ou Saint-Maurice. Et les débats ont été plutôt calmes malgré des divergences d'opinion. Thierry Nicolet a tendu son micro à quelques participants et il leur a demandé s'ils étaient oui ou non favorables à une fusion.
Contre, parce que pour le moment je vois pas avec qui déjà et pourquoi on est une commune qui fonctionne bien.
La perte d'identité, c'est une peur ou un peu quand même?
Grande peur, c'est clair.
Ce serait bien de garder quand même une identité, au moins d'un quartier qui reste appelé Massonger.
On n'a pas à craindre une perte d'identité. Les fêtes au village, les sociétés du village vont rester. Et ça sera seulement une question de, à mon avis, administrative et financière. Mais ça, c'est après à discuter avec des gens beaucoup plus compétents que moi.
C'est plus possible d'être un petit village. C'est comme une entreprise maintenant, un village.
Ces divers avis aideront la commune Masson-Géroude à prendre une décision sur l'éventualité d'une fusion. Pour le bureau de consulting et d'accompagnement CEREC, qui a organisé l'atelier citoyen, Masson-Géroude devra inévitablement se rapprocher d'une localité voisine. Écoutez à ce propos la chef de projet de CEREC, Brigitte Gabu.
Ça fait partie des communes qui sont un petit peu plus petites et qui sont, même si elles ont une très bonne santé financière, c'est pas très facile pour elles de continuer à remplir toutes leurs obligations. Après, elles ont encore la possibilité en ce moment de pouvoir être indépendantes. Mais à terme, effectivement, c'est un choix qu'elles devront faire.
À noter que tant à Vérossac qu'à Masson-Géroude, les conseils communaux n'étaient pas présents lors des ateliers. Cela afin que la population se sente tout à fait libre de faire ses remarques. Un sujet préparé par Thierry Nicolet.
La municipalité de la Tour de Paix a présenté son budget 2022 hier soir devant le conseil communal.
L'exercice prévoit un excédent de charges de 1,6 million sur une enveloppe globale d'un peu plus de 80 millions de francs. Un résultat volontairement calculé prudemment en raison des variables hors du contrôle des autorités. Mais ce qui est certain, c'est que la pandémie a pesé et pèsera sur les finances boélandes. Jean-Pierre Schwab, municipal en charge des finances.
Alors nous avons fait plusieurs actions qui nous ont coûté en direct plus de 500 000 francs, les aides que nous avons faites pour les restaurateurs, les cafés et les bars. Nous avons fait une aide donc pour des bons, on a émis des bons pour 450 000 francs, où on avait une charge, si on veut bien, de 30%, puisque on remboursait 10% aux commerçants, s'ils nous donnaient un bon de 100 francs au lieu de donner 110 francs, et par contre, le citoyen pouvait acheter ses bons à 80 francs. Donc il y avait 30% qu'on prenait à notre charge. Nous avons fait également une aide pour des loyers, nous avons supprimé quelques mois de loyer à ceux qui étaient locataires de la commune. Et c'est, toutes ces aides-là, si on les cumule, eh bien ça représentait environ 500 000 francs.
Les 2,15 millions qui sont au budget sur le Covid, c'est quoi le solde en fait, si on enlève ces 500 000?
Ça, c'est les recettes fiscales qu'on a calculées en disant, avec le Covid, il y a des contribuables qui vont avoir moins de recettes. Alors, c'est ces variations qui sont difficiles à déterminer, mais qu'on a pris aussi de manière assez prudente. Et on n'espère pas qu'on ait ces 2,15 millions qui s'appliquent. Bon, il y a aussi l'aide aux entreprises qui ont dû fermer. On a créé un fonds qu'on a réparti en fonction de la période et du nombre d'employés qu'ils avaient. On prenait en charge, en fait, la différence entre la RHT et puis le 100%. Ça, c'était le plus gros morceau de l'aide qu'on a mis sur pied.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Le budget 2022 affiche également une marge d'autofinancement négative de 5 millions de francs. Mais l'impact devrait être minime, selon Jean-Pierre Schwab. Le conseil communal devra se prononcer sur ce budget lors de sa prochaine séance le 8 décembre prochain. Davantage de pouvoir d'achat pour la population vaudoise. C'est le titre d'une initiative populaire cantonale lancée ce matin par les jeunes libéraux radicaux vaudois avec le soutien du centre et du centre droit. Le but est de permettre aux contribuables de déduire la prime moyenne d'assurance maladie de base de leur déclaration fiscale. Les initiants ont 4 mois pour récolter les 12 000 signatures nécessaires à leur projet.
Pour que l'hôpital reste hospitalier.
Accueillir les patients de manière optimale dans un établissement hospitalier ne sonne pas comme une évidence. Raison pour laquelle le CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois, a souhaité prendre le taureau par les cornes en dispensant, avec la complicité de l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne, une nouvelle formation à son personnel sur cette thématique. C'est un dossier signé Yves Terrani.
Pour certains patients, l'accueil au CHUV est excellent. D'autres voient en revanche dans cet établissement hospitalier une usine où on les traite comme de vulgaires numéros. La vérité est probablement à mi-chemin, mais avant de juger, il est bon de savoir que le CHUV enregistre chaque année quelques 50 000 hospitalisations et qu'il traite pas moins d'1,3 million de consultations ambulatoires. C'est dire la difficulté qu'il y a de contenter tout le monde, et cela d'autant plus que ce ne sont pas moins de 40 à 70 professionnels qui peuvent se relayer au chevet d'un même patient pour une prise en charge standard. Ajoutez à cela la pression économique, un hôpital doit être rentable, la pression temporelle aussi. Un accompagnement et un suivi tel qu'on pouvait les proposer il y a 20 ans à peine n'est donc plus vraiment possible. Responsable de la communication du CHUV, Béatrice Chad en convient.
En fait, on est très loin de l'époque où un médecin généraliste s'occupait de bout en bout d'un patient. Aujourd'hui, la médecine, c'est tellement compliqué que il y a un cumul de spécialistes qui font une course de relais autour du patient. Donc effectivement, c'est difficile d'assurer ça, et c'est pour ça qu'on voulait un cours qui soit complètement interprofessionnel, où toute une équipe développe la même culture autour du patient, la même culture de l'accueil.
Loïd Terrier, lui, est professeur associé à l'école hôtelière de Lausanne, spécialiste du comportement organisationnel et humain. Il voit des similitudes entre le secteur hospitalier et l'hôtellerie.
Alors il y a de très très fortes similitudes finalement. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, on va prendre quelqu'un en charge. Donc dans le cadre de l'hôtellerie, ben, on le prend, il passe un moment dans une chambre, il va au restaurant de temps en temps, il interagit avec le personnel de l'hôtel. Dans le cas du CHUV, bien entendu, il ne se déplace pas pour les mêmes raisons, il y a probablement beaucoup plus de stress, mais in fine, il va se retrouver dans une chambre, il va aller manger dans un restaurant, une cafétéria, il va interagir avec du personnel médical. Donc la dimension d'hospitalité, on la trouve aussi bien dans l'hôtellerie que dans la prise en charge à l'hôpital.
Monter des cours pour de futurs managers en hôtellerie est une chose, les adapter à la pratique hospitalière pour un personnel composé non seulement de médecins, mais de plein d'autres personnes, c'est quand même différent.
Alors oui, bien entendu, c'est différent, et puis c'est un des challenges de cette formation. L'idée, c'est pas de dupliquer ce qu'on fait ici à l'école hôtelière et de le proposer au CHUV, ça aurait pas de sens, ça ne fonctionnerait pas. L'idée, c'est de partir de la réalité des professionnels de la santé, de la réalité du CHUV, leur présenter les outils dont on dispose, voir okay, comment est-ce que ces outils pourraient être transférés ou utilisés dans le cadre de leur pratique au quotidien.
Et vous avez fait comment ? Vous êtes allé voir un petit peu les pratiques du CHUV ?
Ce sont les participants qui vont nous parler de leur pratique dans le cadre de la formation. On n'est pas une formation classique dans laquelle le professeur va dire ce que les étudiants vont apprendre. Ici, c'est pas ça. Il y a une interaction entre les participants et nous ici à l'école hôtelière. Une adaptation tout au long de cette formation à la réalité du CHUV, mais leur réalité, mieux qu'eux, il n'y a personne qui peut nous en parler. Je ne serais pas moi en mesure, après une ou deux journées d'observation, de dire ce qu'est la réalité du CHUV. Je n'aurais pas cette prétention, ce serait hyper risqué et ça ne ferait pas de sens. Donc c'est vraiment eux qui nous apportent leur réalité et ensuite, ensemble, on s'adapte à cette réalité.
C'est enthousiasmant pour une école comme la vôtre d'entrer dans un tel projet ?
Alors oui, c'est toujours enthousiasmant de travailler avec des acteurs majeurs, d'autant plus des acteurs de la région. Le CHUV, c'est un hôpital qui est très performant. C'est un hôpital qui est orienté aussi vers l'amélioration de sa performance. Donc oui, c'est très enthousiasmant. Pourquoi ? Parce que de deux côtés, il y a de l'intérêt pour cette formation.
Notons encore que pour les responsables du CHUV, l'accueil des patients doit faire partie intégrante des soins dispensés. Il n'y a pas de prise en charge de qualité sans un accueil personnalisé, considère son directeur général Philippe Eckert. Pour Michel Rochat, CEO du groupe EHL, les patients ont aujourd'hui des attentes plus élevées en matière de qualité du service. Et c'est dans ce sens que nous allons apporter notre expertise au domaine de la santé, précise-t-il.
Ajoutons que la nouvelle formation a démarré vendredi dernier. Elle compte 5 sessions en tout. La première volée qui y participe sur une base volontaire est composée d'une quinzaine de collaborateurs du centre du sein du CHUV.
Le musée de l'Élysée, le MUDAC, peuvent investir leurs nouveaux locaux.
La remise des clés a eu lieu ce matin à Lausanne. Après l'inauguration du musée cantonal des Beaux-Arts en octobre 2019, c'est la deuxième étape de concrétisation du quartier des Arts plateforme 10 qui s'achève. Le public est invité à découvrir ce nouveau bâtiment les 6 et 7 novembre de 10h à 22h. Et c'est parti pour 6 mois de ski à Glacier 3000. Grâce aux récentes chutes de neige, le domaine skiable situé au Diableret ouvrira ses installations ce samedi. 10 km de piste sur le glacier et un snowpark avec un nouveau concept attendent les fans de glisse. Le domaine viticole du Grand Brûlé à Létron est officiellement propriété de l'État du Valais depuis 100 ans. C'est le 4 novembre 1921 en effet que le canton l'a racheté à la bourgeoisie de Létron, d'une superficie de 11,5 hectares et exploité aujourd'hui par le service cantonal de l'agriculture via son office de la viticulture. Ce domaine fait office de centre de recherche viticole et œnologique au service des vignerons et encaveurs valaisans. Présenté ce matin à la presse, un ouvrage de quelques 300 pages richement illustrées lui est désormais consacré. À noter que diverses manifestations marqueront le centenaire du Grand Brûlé tout au long de l'année 2022, l'année du centième millésime.
Il faudra vous attendre à de l'improbable et de l'insolite à Montaix du 19 au 20 novembre prochain.
Puisque le festival Hic et Nunc fait son grand retour en ville, cette quatrième mouture fera la part belle aux artistes locaux. Lors des éditions précédentes, il ne fallait pas se rendre au théâtre ni à la salle de concert pour applaudir les artistes. Qu'en est-il cette fois ? La réponse de Lorenzo Malaguerra, directeur du théâtre du Crochetan et membre de l'organisation du festival.
C'est toujours le cas, parce que c'est vrai qu'en général, on voit des performances dans des lieux de culture, justement, et l'idée, c'est de pas jouer là où normalement on joue des concerts ou des spectacles. Il y a une interdiction absolue de jouer dans des lieux de culture, et l'idée, c'est mettre les artistes dans des positions qui sont totalement inconfortables, disons, ou en tout cas insolites.
Mais alors, où devrons-nous aller pour admirer danseurs, projections, comédiens ou encore poètes ? On retrouve Lorenzo Malaguerra au micro de Guillaume Abbé.
Il y a une boucherie, c'est la Bavette qui programme. Il y aura une projection aussi sur la façade de la médiathèque. On explore cette année aussi les sous-sols de Montétourisme qui étaient d'anciennes cellules qu'on a rebaptisées les catacombes de Montétourisme. Il y a des artistes qui choisissent eux-mêmes les lieux dans lesquels ils vont jouer. Par exemple, un concert très original dans un parking quelque part dont je tairai le nom pour l'instant. Et puis, il y en a d'autres où on dit, ben voilà, toi, tu vas jouer là parce qu'on a décidé que tu jouerais là et voilà, tu t'adaptes. Et je pense qu'il y a des artistes qui sont assez contents de se faire bousculer comme ça. Et puis, je pense que ça, c'est une dimension quand même importante d'une performance artistique, d'être mis au défi pour faire quelque chose.
Le Hic et Nunc est un festival gratuit. Il se déroule du 19 au 20 novembre prochain. Retrouvez le programme complet sur hicetnunc.ch.
Les trois exploitants du restaurant Zermattois ne passeront pas un mois en détention.
C'est pourtant ce qu'avait demandé mardi le ministère public. Le tribunal des mesures de contrainte valaisan a estimé qu'il n'y avait pas matière à les laisser en prison. Le ministère public a donc renoncé à recourir contre cette décision. Pour rappel, les exploitants ont été arrêtés dimanche pour avoir ouvert leur restaurant aux personnes sans passe sanitaire, malgré les avertissements et menaces répétées des autorités. Trois semaines de la votation fédérale du 28 novembre, un comité national se constitue enfin pour soutenir la loi Covid. Il a fière allure avec les présidents de 6 des 7 partis représentés au Parlement fédéral. Il ne manque que l'UDC qui recommande le rejet de la loi et du certificat Covid. Ces 6 présidents ont rappelé ce matin à Berne que la loi Covid et le certificat offrent de la liberté et un soutien indispensable au milieu économique, sportif et culturel, certainement nécessaire au-delà de l'hiver prochain. Le débat se focalise sur le certificat, considéré comme discriminatoire par les adversaires de la loi. Est-ce difficile de le faire avaler à la population ? Le président du centre, Gerhard Pfister.
C'est plus facile qu'on pourrait s'imaginer parce qu'on voit dans les médias les images des démonstrations et aussi des critiques très personnelles. Mais c'est une grande patience, disons, du peuple, une grande rationalité, un grand calme. Il y a une grande majorité silencieuse qui va soutenir cette loi et c'est une toute autre image qu'on pourrait avoir selon les médias.
C'est aussi une forme de vote de confiance dans les institutions que vous demandez ?
Oui, bien sûr. Dans une crise, c'est le devoir d'un parti qui défend les valeurs de la Suisse de renforcer la confiance du peuple pour les autorités, pour le Conseil fédéral. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter, critiquer, mais je constate que la Suisse a réussi de manager pas si mal pendant cette pandémie.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Le dernier sondage du groupe de presse Tamedia, publié mardi, donne 69% de oui à la loi Covid contre 30% de non.
AstraZeneca a retiré sa demande d'autorisation pour son vaccin anti-Covid en Suisse.
La société a pris cette décision car SwissMedic voulait limiter ce produit aux personnes de plus de 50 ans. Cette dernière a d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises que les données n'étaient pas suffisantes pour une autorisation. La Confédération avait initialement commandé 5,3 millions de doses de vaccin AstraZeneca. Et puis on continue à parler de l'actualité Covid. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée aujourd'hui du rythme très préoccupant de transmission du coronavirus observé actuellement en Europe, qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Nous sommes de nouveau à l'épicentre, a déploré le directeur de l'OMS Europe lors d'une conférence de presse en ligne. Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid. Un total de 36 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de 21 étages lundi à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont indiqué aujourd'hui les services de secours qui poursuivent leurs opérations de recherche. L'exploit n'a pas eu lieu pour Blenay Basket en Coupe de Suisse. La formation vaudoise recevait hier soir Genève Elite pour le compte des huitièmes de finale. Face à une équipe qui évolue en première division helvétique, les Blonaisannes n'ont pas pu rivaliser. Les visiteuses se sont imposées 92-57 et mettent un point final à l'aventure Coupe de Suisse de Blenay. Pensionnaire de Ligue B féminine, les joueuses de Sophie Charlier auront malgré tout joué avec leurs armes tout en étant conscientes que la rencontre serait difficile. Écoutez les impressions d'Alice Moller, joueuse de Blenay Basket.
Non, on savait que ça allait être difficile sur le long terme. C'est vrai que bien commencer une rencontre, c'est toujours mieux. Après, je pense que c'est aussi physiquement, on s'entraîne beaucoup moins qu'elle, donc c'est clair que je pense que ça a été notre plus principal défaut.
Ça se ressent assez rapidement dans une rencontre comme ça. Vous le remarquez assez vite, la différence peut-être aussi de gabarit, de technique. Par quoi ça se caractérise en fait cette différence ?
Ouais, bah avant tout physique. Enfin, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus musclées, plus rapides, toujours mobiles et à donner plus de coups que nous. Donc c'est un bon apprentissage et puis on prend que le positif de cette rencontre.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Blonay Basket est donc éliminé de cette Coupe de Suisse au stade des huitièmes de finale. En championnat, les Vaudoises accueilleront Lausanneville Prilly Basket ce samedi à 19h15. Et puis chez les hommes, le BBC Montet-Chablais a en revanche franchi l'obstacle des 16e de finale. En déplacement chez les Genevois de Bernay, qui militent en première ligue, les Valaisans se sont imposés 104 à 57. Il s'agit là de leur première victoire cette saison dans un match officiel. Quant à Union Lavaux, Riviera Basket et Blonay, l'aventure est terminée. Les Veuvaisans ont perdu 78 à 64 à Morges, pendant que les Blonaisans se sont fait surprendre 85 à 76 à Verrier.
En gymnastique, le gala Gymvo 2021 se tiendra ce week-end du côté de Puydoux.
Et comme tous les deux ans, l'association cantonale vaudoise de gymnastique co-organise un spectacle qui met en scène l'ensemble des disciplines. Pour l'occasion, 12 clubs du canton vont faire le déplacement à la salle Forestet. Le but, promouvoir ce sport tout en proposant un show à un public qui est attendu en nombre. Car depuis le début de la crise sanitaire, il s'agira du premier gala Gymvo. Un moment particulier qui va permettre à tous ces clubs de se retrouver après une période marquée par le Covid-19. Les précisions de Valérie Rajaon Navo, présidente de la FSG Vevey Jeunes Patriotes, club co-organisateur de cet événement.
Absolument, surtout après ce qu'on a vécu avec ces Covid, on n'a pas pu forcément avoir beaucoup de compétitions. Et là, c'est l'occasion vraiment de se retrouver, de partager, de passer un chouette moment ensemble, avec, en espérant, une année 2022 qui s'avancera beaucoup plus simple au niveau de l'organisation des compétitions.
Et puis, sur l'affluence justement de cette soirée, il y aura forcément donc des mesures pour ce qui est de du public. Qu'est-ce qu'il en est ? À quelle sauce il sera mangé ?
Alors absolument, on applique les normes sanitaires qui sont appliquées dans tous les spectacles actuellement, c'est-à-dire le pass sanitaire avec la présentation du certificat Covid et de la pièce d'identité. En effet, c'est imposé ainsi qu'à tous les gymnastes ou bien évidemment d'avoir fait un test juste avant de venir au spectacle. C'est malheureusement une réalité.
La salle Forestet de Puydoux accueille donc samedi le gala Gymvo 2021, co-organisé par la FSG Vevey Jeunes Patriotes. L'événement va réunir près de 350 gymnastes pour deux représentations.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais. La météo.
Un temps changeant est attendu pour cet après-midi avec de larges éclaircies en pleine et un temps généralement sec. Et pour les portes du soleil, les Ormont et le Pays d'en Haut, le temps sera nuageux avec des averses isolées. La limite des chutes de neige sera située aujourd'hui entre 800 et 1100 mètres d'altitude. Il va faire jusqu'à 8 degrés en pleine, 4 à 1000 mètres et moins 2 à 2000 mètres. Pour demain, le temps sera en partie ensoleillé avec encore un risque d'averse, surtout le long des Préalpes. La limite des chutes de neige sera située là aussi entre 800 et 1100 mètres d'altitude. Demain, de 2 à 9 degrés en pleine, de moins 1 à 6 à 1000 mètres et de moins 4 à moins 1 à 2000 mètres.